Bien, chers collègues, chers maîtres, puisqu'on a le plaisir d'accueillir quelques avocats, chères étudiantes, chers étudiants, notre faculté a le grand plaisir et j'ajouterai l'honneur d'accueillir aujourd'hui maître Ayano Kanezuka, avocate associée au barreau de Paris et au barreau de Tokyo, par ailleurs maître de conférence associée à l'université Keio de Tokyo. Et elle va, comme vous l'ont annoncé les différents supports, affiches et autres, nous proposer une présentation du système pénal japonais dans une perspective à la fois critique et comparative. Sa présence incarne à elle seule, je crois, le très beau travail que le professeur Pierre-Yves Monjal et, on fera un clin d'œil au professeur Emmanuel Aubin de l'université de Poitiers, qui est là, ont fait pour tisser un réseau absolument incroyable de coopération scientifique avec des universités japonaises. C'est le moment de leur rendre hommage à tous les deux, au minimum. Et à cette occasion, d'ailleurs, maître Kanezuka était déjà venu nous faire le plaisir d'intervenir lors d'un colloque en 2018, c'était les 22 et 23 mars 2018, pour discuter avec d'autres éminents collègues et confrères des liens entre l'Union européenne et le Japon. Surtout, maître, vous allez nous parler évidemment de l'affaire Carlos Ghosn à l'occasion de votre venue. C'est une grande chance pour nous d'avoir votre éclairage, parce qu'évidemment, nous, en tant que Français, on a été parfois intrigués par certains éléments de procédure, une garde à vue qu'on a pu juger extraordinairement longue par rapport à ce qu'on connaît ici, des conditions d'incarcération particulières, tout un tas de choses qu'évidemment vous allez pouvoir nous éclairer. Donc c'est un très beau cadeau que vous nous faites aujourd'hui. On vous remercie. On le prend comme un signe d'amitié qu'on saura vous rendre. Et puis je donne la parole à Pierre-Yves Monjal. Je vous remercie d'avance. Merci.
Très bien, merci Madame le Doyen Charnatelli, cher Maître Kanezuka, cher Ayano, Mesdames et Messieurs les avocats, chers collègues, chers étudiants. Écoutez, je suis ravi évidemment de vous recevoir, même si la période est surtout propice aux examens, mais on a un petit peu de temps et un peu de monde pour assister à des conférences évidemment intéressantes et passionnantes. Alors, très rapidement, d'abord, vous remercier les uns les autres et vous remercier, Maître, de votre présence, et puis vous dire également que je m'exprime ici à un double titre. Alors, d'abord, en tant que directeur de l'Institut de recherche juridique interdisciplinaire, enfin co-directeur plus précisément, l'autre co-directeur, Monsieur le professeur Fourmand, qui est pénaliste, interviendra, j'imagine, tout à l'heure. Et évidemment, c'est une manifestation scientifique qui s'inscrit dans le cadre de nos conférences, de nos colloques. On essaie d'organiser à peu près entre 12 et 15 colloques par an. Donc nous sommes évidemment, et a fortiori, ravis d'accueillir une collègue et une avocate prestigieuse en provenance du Japon. Et je m'exprime également en tant que directeur, cette fois-ci, d'un réseau de recherche, ça a été évoqué à l'instant par Madame le Doyen, le réseau Nihon Europa, qui est un réseau qui associe à peu près 25, 30 universités françaises et japonaises, et à peu près 50, pareil, à parité, enseignants-chercheurs, professeurs, avocats, qui est chargé, ce colloque, avec d'ailleurs nos collègues de Poitiers, de lancer des études juridiques comparatives et de travailler également, alors ça c'est plutôt mon domaine, sur les relations juridiques, économiques entre l'Union européenne et le Japon. Et c'est donc dans le cadre, effectivement, l'an dernier, d'un colloque que nous avions organisé ici même à la faculté de droit de Tours, et bien que nous avons fait connaissance de Maître Kanizuka, qui nous fait le grand honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser la parole pour évoquer cette affaire Carlos Ghosn, qui, à mon avis, va nous intéresser, en tout cas pour les juristes, évidemment, pour les questions pénales qu'il pose. Et puis, après votre intervention, ben, je suggère qu'il y ait un temps de discussion avec notre conférencière d'aujourd'hui. Bonne conférence, merci.
Merci beaucoup. Je vous remercie chaleureusement, Madame la Doyenne, chère Nathalie, et Monsieur le Directeur Pierre-Yves, cher Pierre-Yves, pour cette très aimable présentation et pour cette invitation à échanger sur le système judiciaire pénal dont on a beaucoup parlé récemment. Et c'est un réel plaisir pour moi de revenir à Tours, comme Nathalie, enfin, Madame la Doyenne vous a expliqué. Donc, j'étais intervenue en mars 2018, dans le cadre du formidable colloque organisé par professeur Monjal sur le thème, donc là, dans le cadre de Nihon Europa. Et donc, aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir, de parler de l'affaire Carlos Ghosn. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail de l'affaire parce que, bon, je ne suis pas journaliste. Donc là, j'interviendrai surtout sur le volet juridique, un peu pour vous présenter notre système pénal qui semble un peu parfois mystérieux. Et bon, j'essaie d'un peu relativiser les choses parce que parfois les critiques sont bien légitimes, mais parfois il y a quelques malentendus. Donc là, je vais essayer de vous expliquer. Ce n'est pas, je ne suis pas là pour justifier notre système en Japon, mais bon, ayant avocate en exercice à Tokyo, et je suis pas avocate de Monsieur Ghosn, c'est pour ça que j'ai la liberté de parole ce soir, mais pendant certains temps, j'ai eu beaucoup de dossiers, j'ai eu des dossiers en pénal, heureusement il n'y a pas beaucoup de Français délinquants au Japon, mais il y en a certains, donc j'ai pas mal travaillé avec l'ambassade de France au Japon, qui me contactait quand il y avait des Français qui étaient en garde à vue à Tokyo, et donc voilà. De ce point de vue, j'ai quelques expériences en la matière, pas le dossier de siècle comme celui de M. Ghosn, mais bon, je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe et quel est le problème que nous rencontrons aujourd'hui au Japon. Voilà. Et donc, bah, merci beaucoup, chères étudiantes et chers étudiants, d'être là. Donc là, j'ai appris que vous êtes en plein milieu d'examen, donc ce n'est pas très propice. Donc, merci d'avoir commencé à accorder, libérer votre temps précieux. Et on m'a dit qu'il y a des confrères. Donc là, je vais essayer d'expliquer notre système. Et je vais essayer de ne pas vous décevoir. Voilà, donc là je vais essayer de parler peut-être une heure, après donc on va essayer de discuter ensemble, donc là le directeur va faire quelques remarques après mon intervention, et voilà, donc si vous avez des questions tout à l'heure. Voilà, donc déjà le rappel des faits, voilà, c'est juste pour que vous ayez un peu... La chronologie, le Japon, est-ce que c'est un pays incorrect? Ça vient d'un livre qui vient de paraître, qui parle un peu de tout sur le Japon. Donc, je suis en train de lire. Mais en tout cas, et rappel des faits, il y a eu 4 arrestations au Japon. Ça aussi, je pense que c'était un choc pour le monde international, notamment en France. Donc, le 19 novembre 2018, première affaire, minoration de revenus entre 2010 et 2015. Après 10 décembre 2018, c'était à la fin de la détention provisoire qui a eu la deuxième arrestation qui a permis au parquet de garder un corps pendant 20 jours. Monsieur Ghosn, dans la maison de détention de Kosuge, comme on appelle ça, et nous avons encore la troisième arrestation, 21 décembre 2018. Donc là, c'était un peu un grenage, c'était bon, juste avant Noël, énorme quart de Noël pour monsieur Ghosn. C'était affaire Arabie Saoudite, qu'on appelle au Japon. Et entre-temps, il y a eu cette ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Nanterre en France pour l'histoire de mariage célébré au château de Versailles. Et enfin, on pensait que c'était fini parce que M. Ghosn a été libéré sous caution, moyennant 1 milliard de yens, un montant qui représente un montant assez important. Il y a eu la quatrième arrestation, ce qui a encore bien surpris les Japonais. On pensait que là, il n'y aurait plus d'arrestation. Je pensais que moi non plus, je ne pensais pas qu'il y a encore cette histoire, mais en tout cas, il y a eu la quatrième arrestation. Voilà, pour abus de confiance aggravé. Et soupçon de détournement, son profit personnel d'un montant important. Et c'est ce qu'on appelle l'affaire Oman. Et bon, maintenant, M. Ghosn est libéré. Et au Japon, donc, la libération se fait sous caution. Il faut déposer un certain montant. Le montant est déterminé en fonction, en fait, de ressources de la personne en question. Parce qu'en fait, si on prend la fuite, le montant est confisqué par l'État japon. Donc, il faut que ça soit un montant dissuasif. Donc, M. Ghosn a dû payer au total 1 500 000 000 de yens, un montant assez important. Et ce qui est assez intéressant au Japon, c'est que c'est un pays où tout se passe en cash. Donc, 1 milliard de yens, ça fait des blocs d'argent comme ça. Et M. Ghosn a été, en fait, la décision de la première libération était le 5 mars. Mais bon, l'avocat n'a pas pu rassembler tout l'argent tout de suite parce qu'il fallait contacter la banque pour que la banque prépare assez d'argent. Donc, il a été libéré que le lendemain. Mais bon, en Japon, ça se passe comme ça. C'est toujours par le cash. Et parfois, je suis amenée à bouger avec des cash comme ça pour en libérer mes clients. C'était le cas, c'était encore pire pour M. Ghosn. Voilà, c'était la particularité. Et donc, et là, il y a la deuxième libération, et maintenant, il n'a pas le droit de communiquer avec sa femme. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, sa femme a été partie du Japon, et le parquet du Japon considère que sa femme avait contacté les personnes que M. Ghosn n'a pas le droit de contacter. C'était prévu dans les conditions de la première libération, ce caution. Donc, bon, M. Ghosn se plaint de cette interdiction de contacter sa femme, mais bon, ça se passe comme ça. Voilà, donc dans ce cadre-là, voilà, je vais essayer voilà, de présenter un peu des choses comme ça sur deux axes. Justice de l'otage, donc là, c'était le mot un peu utilisé par l'avocat de M. Ghosn en France, hein. Et donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu les conditions de garde à vue et de détention provisoire. Enfin, je vais essayer de vous expliquer un peu le système pénal au Japon. Et puis, justice en otage. Et bon, surtout, voilà, je vais un peu parler, je vais essayer de vous expliquer la véracité des critiques du système judiciaire japonais. Et surtout, c'est ça que c'est la partie que j'aime beaucoup parce que bon, j'aime bien tout ce qui est l'approche comparatiste. Donc c'est une question toujours difficile, un exercice toujours difficile de porter un jugement sur un système différent. Mais bon, je vais essayer, le temps est limité, mais je vais essayer de discuter un peu avec vous sur ce thème-là. Voilà. Voilà une justice de l'otage. Là, déjà une petite présentation. Voilà. Le système japonais semble parfois mystérieux. On dit que c'est médiéval et tout le temps, moi aussi, dans mon cabinet, je me plains tout le temps. J'ai un associé français, mais je lui dis tout le temps que nous vivons au Moyen-Âge au Japon. Mais bon, voilà, donc nous n'avons pas une longue histoire hein, enfin, de modernité concernant le système judiciaire au Japon. Nous étions sous le régime féodal jusqu'au milieu du 19e siècle et nous avons ouvert le pays au monde. C'était qu'en 1868, sous la pression américaine au début. Et à ce moment-là, il y a eu, enfin, un peu avant, il y a eu quelques traités inégaux avec les puissances occidentales, dont la France. Et le Japon a signé un traité voilà, de commerce, mais on dit le traité inégal, en tout cas côté Japon, en 1858. Donc c'était sous Napoléon III. Et il fallait sortir de cette... En fait, la condition de sortie de cette situation inégale, c'était la modernisation du pays, notamment par l'adoption du système juridique occidental. Donc les puissances occidentales ont dit que, bon, ils ne peuvent pas faire confiance aux Japonais tant que ne sortons pas du système féodal, ce qu'on comprend. Vu le contexte historique. Et donc le premier pas, c'était d'abord le code pénal et procédure criminelle. En fait, ça a été rédigé par un Français. Donc voilà, c'était un peu, on dit que le Japon, c'est un peu, il y a un système mystérieux, mais tout a commencé avec la France, en fait. C'était un professeur de la Sorbonne, M. Émile Boissonnade, qui était invité par le gouvernement japonais de l'époque. Il a été aussi conseiller en diplomatie, enfin tout ce qui est les relations d'affaires étrangères en Japon de l'époque. Donc, voilà, c'est lui qui a beaucoup, beaucoup contribué à la modernisation de notre pays. Et dont le code pénal et le code de procédure criminelle, comme on appelait ça à l'époque. Et ça a été rédigé en français et traduit en japonais par la suite. Et donc là, on a utilisé pendant 20 ou 30 ans ces codes français. Et après, nous avons eu une influence allemande parce que les Japonais de l'époque jugeaient que la France est trop libérale pour le Japon impérialiste de l'époque. Mais en tout cas, il y a aussi le code civil. Nous sommes, bon, je suis là ce soir pour parler du droit pénal, mais le code civil, le premier pas a été posé par le même professeur Boissonnade. Et donc, nous sommes ceux, voilà, c'était le code Napoléon que nous avons adopté plus ou moins, un peu adapté au Japon. Mais nous sommes ceux, l'influence française très importante. En tout cas, à l'époque. Et à l'époque, nous avions le juge d'instruction, il y a aussi l'action civile, comme en France, que nous avons supprimé depuis, mais nous avions ce système à la française. Et aussi, nous avions le système de jury populaire. Hein. Ce n'était pas M. Boissonnade qui l'a introduit, mais nous avons introduit en 1923, c'était un peu tard, hein, parce que le premier code pénal, ça a daté de la fin du 19e siècle. Mais ça a été suspendu pendant la guerre et supprimé après la Seconde Guerre mondiale sous l'influence américaine. Et puis, nous avons eu la guerre, nous avons perdu la guerre, comme vous le savez bien, en 1945. Et nous avons été, c'était les soldats américains qui sont venus, nous étions sous l'occupation américaine, jusqu'en 52, jusque le traité de San Francisco. Et c'était sous l'influence américaine que nous avons adopté notre nouvelle constitution en 1947. Et en 1948, nous avons adopté le nouveau code de procédure pénale. Mais cette fois-ci, c'est à l'américaine. Donc on a fait un peu la rupture avec le système français et allemand. Et la particularité, c'est la suppression de juges d'instruction. C'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler de juges d'instruction dans cette affaire Carlos Ghosn. C'est toujours le parquet dont on parle, mais ça a été supprimé après la guerre. Parce que nous avons constaté, en tout cas, les Japonais de 1945-48, que c'était le juge d'instruction qui était le principal responsable de la violation des droits des prévenus, en tout cas de l'époque. Et donc, il y a eu un certain traumatisme. Et aussi, on a essayé de séparer le plus possible la phase de l'enquête, la phase d'examen. Voilà. Ça s'est passé un peu comme ça. Et puis, un peu le système moderne, comment ça se passe au Japon. Et donc là, c'est la photo de la Cour suprême que j'ai prise. De l'extérieur, il n'y a pas de problème, mais au Japon, les photos sont assez interdites. Donc là, c'est la salle d'audience où siègent 15 juges de la Cour suprême. Et ben là, on a pu prendre la photo, mais on m'a dit de ne pas utiliser, ne pas divulguer cette photo. Mais je pense que c'est bon, je suis en France. Je pense qu'ici, il n'y a pas de personnel de notre Cour suprême. Donc là, je me suis permis de mettre la photo. Je ne vois pas d'où vient cette interdiction, mais c'est comme ça dans notre pays. Voilà, nous avons une Cour suprême, nous n'avons pas de juridiction administrative. Hein. Alors si ça a été supprimé par les Américains, on a considéré au Japon que la juridiction administrative violait beaucoup les droits de l'homme. Donc on a supprimé à la sortie de la guerre. Nous avons que la Cour suprême, il n'y a pas une institution similaire au Conseil d'État, comme en France. Nous n'avons pas non plus le Conseil constitutionnel comme en France. Nous avons donc le tribunal suprême, c'est la Cour suprême, il y en a une. Il y a 8 cours d'appel, c'est peu par rapport en France. J'ai vu qu'il y a 36 cours d'appel en France, nous n'avons que 8, c'est peu. Et nous avons le tribunal des affaires familiales, il y en a 50, le tribunal régional, 50, c'est pas beaucoup, parce que vous avez 164, enfin en tout cas en 2017, vous avez 164 TGI en France, enfin, avec le tribunal de police, donc c'est pas beaucoup. Voilà, c'est assez simple le système par rapport au système français, nous avons que ça. Et ensuite, nous n'avons pas non plus des tribunaux pénaux. C'est toujours les tribunaux régionaux, qui jugent les affaires civiles, administratives, pénales. Donc il n'y a pas, d'autre système judiciaire que ce qui est présenté dans mon schéma. Voilà. Et donc là, c'est ça. Dont nous parlons beaucoup à ce moment-là, comment ça se passe, la procédure pénale au Japon, et c'était ça qui a été critiqué de façon légitime, je trouve, par la France et par la société internationale. Donc là, je vais présenter brièvement ce qui se passe quand on est arrêté, enfin, quand il y a une infraction au Japon. D'habitude, la voie classique, c'est l'arrestation par la police. Mais c'est toujours sur le mandat de juge. Donc aussi, il y a une petite confusion, une source de confusion, parce que dans la plupart des cas, les journalistes français traduisent par la garde à vue cette première étape, mais c'est l'arrestation sur le mandat de juge. Donc ce n'est pas les policiers qui viennent chercher les prévenus comme ça d'office, mais c'est toujours sur le contrôle judiciaire. Après, on peut toujours critiquer si ce contrôle marche bien. Mais en tout cas, ça se passe, il faut toujours demander l'autorisation auprès du juge. Et la police ne peut garder le prévenu que pendant 24 heures. Après, le prévenu est transféré au ministère public qui dispose que 48 heures. Et Dans le cas rare, comme c'était le cas de M. Gonde, l'arrestation commence par le procureur. Et dans ce cas-là, c'est toujours avec le mandat de juge, et le procureur peut garder que 48 heures. Et au bout de 48 heures, le procureur doit demander auprès du juge l'autorisation de la détention provisoire. Donc là, c'est là la détention provisoire qui est bien critiquée à l'heure actuelle. La première détention provisoire, c'est 10 heures au maximum. Parfois, ça peut être 8 jours, mais bon, dans la plupart des cas, on donne 10 jours parce que ça permet au parquet, à la police de mener à l'enquête. Et au bout de 10 jours, le parquet, le procureur doit décider soit de libérer, soit de demander la prolongation encore de 10 jours, soit de lancer la procédure pénale. Mais d'habitude, 10 jours n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, le procureur demande 10 jours de détention provisoire et avec l'autorisation du juge. Et c'est pour ça que maintenant, on dit 22 jours de détention provisoire de garde à vue de M. Gonde. Mais en fait, ça c'est parce que ça a commencé par l'arrestation par le procureur, 2 jours, et détention provisoire, 10 jours, et puis la prolongation de 10 jours, ce qui fait que 22 jours. Voilà. Et je raconte ça, en fait, je veux dire, l'autorisation du juge, etc., une petite histoire à côté. Je suis avocate au Japon, enfin, je suis aussi avocate en France, mais surtout au Japon. Et au Japon, enfin, je connais assez bien le système parce qu'au Japon, en fait, la formation est commune pour les avocats et les magistrats. Et donc, on passe le même concours de droit à la sortie de l'université. Et quand on réussit, enfin, maintenant, c'est plus court. À mon époque, il y avait 1 an et demi de stage, et dont 1 an chez les avocats, les juges, et chez le procureur. Donc là, c'était 3 mois dans un cabinet d'avocat, 3 mois chez le juge pénal, 3 mois chez le juge civil et 3 mois chez le procureur. Donc on sait bien comment ça fonctionne et nous avons un certain respect mutuel entre les avocats et les magistrats parce qu'on sait, on est formés de la même manière, on sait comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que voilà, j'ai vu pendant mon stage chez le juge, chez le procureur aussi, comment ça se passait au moment de la demande de l'autorisation de la détention provisoire, par exemple. Voilà une petite anecdote. Voilà, enfin, en tout cas, tout ça, c'est prévu dans le cours de procédure pénale. Je pense que j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais bon, c'est détaillé dans notre code. Déjà, nous avons 8 articles dans la Constitution pour garantir les droits de prévenu et de l'accusé. Je dis le prévenu accusé comme ça. Au Japon, comme je vous ai dit, le système est assez simple. Et en pénal, on ne fait pas la distinction selon les infractions. Il n'y a pas la cour d'assises, il n'y a pas de tribunal correctionnel, etc. C'est toujours le même tribunal qui est juge. Et donc, j'utilise un peu comme ça les termes, sans précision. Mais en tout cas, c'est prévu comme ça dans la Constitution et dans le code pénal, enfin, dans le code de procédure pénale. Et bon, j'ai cité les articles, mais tout a été résumé dans mon schéma de tout à l'heure. Il y a la détention provisoire, donc, et après, donc, pendant l'arrestation et la détention provisoire, il n'y a pas vraiment la possibilité de libération. En fait, c'était ça qui était bien critiqué durant la phase de l'enquête. Il y a la suspension de la détention provisoire, mais c'est assez rare. Parfois, quand les détenus sont très malades, il y a la suspension de la détention provisoire. Mais en fait, ils sont transférés dans un hôpital un peu gardé par la police. Ce n'est pas la liberté. Parfois, on dit que ça peut être suspendu s'il y a des obsèques d'un parent, etc. Mais ça aussi, ça reste rare. Donc, en tout cas, pour être libéré, au moins, il faut attendre la date de la mise en accusation qui intervient normalement au bout de 22 jours, 23 jours, ce qui était le cas de M. Gonde. Et donc, la mise en accusation, ça veut dire que l'enquête est terminée côté parquet. Et donc, normalement, on peut penser que, voilà, on peut être libéré parce que l'enquête est terminée. Et on attend que le jour de l'audience. Voilà. Et oui, la détention provisoire. Et quand est-ce qu'on détient des personnes aussi? Bon, au Japon aussi, la loi prévoit que c'est une exception, comme en France. Mais bon, parfois, il y a l'inversion du principe et des exceptions. C'est vrai qu'il y a pas mal de cas où le juge autorise la détention. Mais en tout cas, l'article 207 et l'article 60 de notre code de procédure pénale indiquent que voilà, la détention provisoire n'est accordée qu'il y a le risque de dissimulation des preuves ou bien prendre la fuite, que le prévenu puisse prendre la fuite dans des cas limités. Et donc, pour M. Gond, le juge et le procureur ont considéré qu'il peut très bien dissimuler les preuves, prendre contact avec des témoins éventuels, ou bien prendre la fuite à l'étranger. Là aussi, c'est un petit problème, enfin un grand problème pour nous, c'est que, je vais montrer tout à l'heure les chiffres, nous avons de plus en plus de cas où nous accordons la libération. Mais avec les étrangers, c'est difficile parce qu'on pense toujours que les étrangers peuvent toujours partir du Japon. Et le parquet dit que, voilà, désolé, bon, il prend la fuite, on garde. Et c'était aussi le cas de M. Gond. Donc là, quand l'avocat, la défense demande la libération sous caution au juge après la mise en accusation, on essaie de montrer qu'il n'y a pas de risque de fuite. Donc le mari, parfois, de garder les passeports, le passeport de mes clients et demander au consul de France au Japon de faire une attestation comme quoi le consulat ne délivre pas de nouveau passeport à ces Français poursuivis au Japon, par exemple. Voilà, donc la libération conditionnée, l'article 88, après la mise en accusation, c'est toujours sous caution. Il faut payer une certaine somme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Normalement, c'est en droit. On peut toujours demander, en fait, le juge doit accorder la libération quand il y a la demande. Mais il y a là aussi l'inversion entre le principe et l'exception. C'est pas facile d'obtenir la libération. Mais donc la libération peut être refusée. Dans des cas notamment, la personne aurait commis un acte de la peine minimum prévu à 1 an de prison. Donc là, quand c'est un cas grave, c'est vrai que la libération peut être refusée par le juge. Ou bien quand il y a des indices suffisants indiquant que la personne en question pourrait dissimuler des preuves, ou bien qu'elle peut menacer exercer des influences sur d'éventuels témoins de l'infraction. Voilà, c'était le cas de M. Gond, en tout cas pour le juge qui a jugé, enfin qui a refusé dans un premier temps la libération sous caution. Et donc, le tribunal est très réticent pour accorder la libération sous caution. Donc là, c'est toujours le problème. C'était donc le point qui a été aussi bien critiqué à juste titre par les Français et par les Européens en particulier. Et un peu le schéma, je pense que c'est plus clair comme ça, comment ça se passe. Donc là, jusque-là, c'était la phase de l'enquête. Donc il y a la détention provisoire sous certaines conditions, la libération conditionnelle sous certaines conditions. Et donc, mais normalement, au bord de certains temps, l'enquête termine, il y a la poursuite pénale. Et c'est ce qu'on appelle la mise en accusation au Japon. Et à ce moment-là, quand toute l'enquête est terminée, le parquet doit déposer auprès du tribunal la copie envoyée à la défense. En tout cas, le parquet dépose l'acte d'accusation au tribunal. Et en ce moment-là, c'est le seul document dont dispose le juge qui juge l'affaire. Donc là, on essaie de donner toutes les influences au juge, donc il faut que le juge arrive comme ça, sans aucune idée préconçue le jour de l'audience. Donc on dépose simplement l'acte d'accusation qui décrit les grandes lignes de l'affaire, mais sans précision, sans trop de détails. Et c'est ce qui se passe pour le moment. Donc le procureur de Tokyo a déposé, certes, je pense que 4 actes d'accusation auprès du juge du tribunal de Tokyo, mais le juge ne doit pas avoir plus d'informations. Enfin, bon, il y a des informations qui circulent aux médias, mais sans plus de précision, en tout cas de façon officielle. Et pour le moment, ce qui se passe, on dit qu'il va y avoir la première audience d'ici automne. On ne connaît pas encore la date exacte. Et pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ghosn est en liberté, sous caution conditionnelle, mais en tout cas, il n'est pas en prison. Et pour le moment, c'est ces avocats qui travaillent avec le procureur, ils échangent des informations, des pièces de procédure, etc., pour préparer l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, ça sera donc l'audience que nous attendons avec beaucoup d'intérêt. Et le jour de l'audience, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est le prévenu qui entre dans la salle d'audience. Comme il n'est pas détenu, M. Ghosn, il viendra comme ça avec ses avocats. Mais s'il est toujours détenu, en fait, il vient avec menotté avant l'entrée de juge. Mais on entre comme ça. D'habitude, la salle d'audience est assez pleine pour le moment. Les Japonais viennent beaucoup écouter, beaucoup voir les audiences au tribunal. Donc là, c'est assez difficile pour les personnes accusées de venir menotter dans la salle d'audience. Ça ne sera pas le cas de M. Ghosn, mais bon, dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. Et quand le procès commence, il y a d'abord l'identification de prévenus. On demande le nom, la profession, l'adresse, etc., la nationalité de la personne mise en examen. Et puis, enfin, mise en accusation cette fois-ci. Et là, après, on dit l'acte d'accusation. Voilà, quelque chose d'assez simple. Et après, on demande au prévenu et à son avocat l'avis s'ils ne reconnaissent pas les faits qui sont portés dans l'acte d'accusation. Et M. Ghosn dira non. Voilà, et il dira qu'il n'est pas coupable, qu'il est innocent dans ce stade, la procédure. Et puis, c'est en ce moment-là qu'on présente les faits approuvés par le procureur. C'est en ce moment que le juge commence à avoir un peu l'idée globale de l'affaire. Et ensuite, le procureur présente la liste des preuves. Mais c'est que la liste des preuves avec les intitulés. On ne lit pas encore des PV. Donc, on ne sait pas, le juge n'a pas encore d'informations concrètes. C'est pour préserver le juge des idées préconçues sur cette affaire. Et ensuite, il y a l'avis de l'avocat sur les preuves à admettre. C'est une étape très importante pour nous, les avocats, parce qu'en fait, le procureur ne peut présenter que les preuves auxquelles l'avocat a donné son consentement. Donc, le parquet ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense que là aussi, c'est une grande différence avec le système français. Et c'est très important parce qu'on ne parle pas de ça en France. On dit que l'aveu est toujours la reine des preuves au Japon et que quand il y a l'aveu, voilà, on est condamné. Ce n'est pas tout à fait le cas. Même les PV, le procureur doit obtenir l'approbation de l'avocat pour présenter au juge. Donc, je pense que voilà, je ne suis pas là pour justifier une fois de plus notre système au Japon, mais il y a aussi cette partie n'est pas bien présentée. Donc là, c'est là qu'on peut bien défendre nos clients devant le juge. Et ensuite, il y a la présentation des faits par la défense. Donc là, on essaie d'expliquer en fait comment ça se passe, comment les faits, comment c'est déroulé. C'est la version avocat. Et après ça, donc après l'approbation, après avec l'autorisation de l'avocat, le parquet présente d'abord des preuves écrites, dont les PV. Et ensuite, dans la plupart des cas, surtout dans des affaires dans lesquelles le prévenu nie les faits dont il est reproché, donc il n'y aura pas la présentation de PV, donc comme c'est des preuves écrites qui n'ont pas été approuvées par l'avocat, on passe à l'audition des témoins. Là aussi, c'est une procédure assez orale au Japon, et on dit que c'est un système accusatoire. Le juge ne parle pas beaucoup chez nous. D'abord, c'est le procureur qui pose les questions aux témoins, et les juges écoutent. Et puis après, il y a le système de cross-examination. Voilà, on ne fait pas ça en France, mais c'est un peu à l'américaine. C'est les avocats qui posent des questions pour en déstabiliser les témoins du procureur. Il peut y avoir aussi des témoins de la défense. Mais on fait toujours comme ça les questions posées par des parties. Après, les juges peuvent poser quelques questions supplémentaires à la fin. Oui, mais c'est toujours des questions supplémentaires à la fin. Et je dis, les juges, normalement, il y a un juge, mais dans des affaires importantes, c'est le corps collégial, il y a trois juges qui, enfin, Et donc, ça sera le cas pour M. Ghosn. Et ensuite, à la fin, il y a l'audition de prévenu. Ça aussi, c'est important. D'abord, voilà, il est interrogé par le procureur. Après, c'est la défense qui pose des questions. Le procureur intervient. Et puis, la défense repose des questions pour soutenir le prévenu. Après, il y a quelques questions supplémentaires par les juges. Mais bon, c'est assez complet. C'est donc le procureur et les avocats qui jouent le rôle assez important, enfin qui jouent le rôle important dans le déroulement de la procédure. Et puis il y a la réquisitoire et la plaidoirie, il y a la dernière déclaration de prévenu, il y a le verdict. Donc là, c'est pas très compliqué cette étape-là. Mais vous voyez, le système est assez différent du système français parce que justement, nous avons été sous l'influence américaine après la guerre, donc nous avons complètement changé de système. Et puis voilà, donc c'est juste que voilà, je vais pas m'éterniser dans le cours de système du droit pénal au Japon. Et donc ça se passe comme ça, mais bon, on en a beaucoup discuté et nous avons quelques problèmes bien entendu juridiques à prendre au sérieux au Japon. Bien entendu, à la longueur de la détention provisoire. Bon, il y a 20 jours, mais ça a été, je pense que ce qui était choquant, c'est pas uniquement 20 jours, mais c'était l'enchaînement de détention provisoire. Ça, c'était interminable. On savait pas, Monsieur Ghosn non plus, jusque ça allait continuer. Et aussi, comme il y a aussi le malentendu, parce qu'on disait la garde à vue, c'est comme si M. Ghosn a été détenu pendant des semaines sans contrôle judiciaire. Mais ce n'était pas le cas, il y avait toujours l'autorisation du juge derrière. L'autre problème, c'est ça aussi, ce point était bien critiqué, c'est l'absence d'assistance d'avocat pendant les interrogatoires. Oui, là, je pense que c'est un grave problème chez eux. L'avocat ne peut pas assister son client pendant les interrogatoires. Le prévenu est tout seul devant le procureur avec un interprète, mais malheureusement, nous avons un grand problème, une carence d'interprète de qualité. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour M. Ghosn. Je pense qu'il est interrogé en anglais. En anglais, je pense qu'il y a quelques interprètes compétents, mais en français, c'est vraiment le cauchemar. Hein. Quand j'avais des clients, quand j'avais des affaires pénales, à chaque fois, il y avait l'interprète ne comprenait pas la déclaration de mes clients, il y avait des contredits, il y avait il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes, enfin, des erreurs de traduction. Donc, à chaque fois, il fallait que j'intervienne, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes. Donc là, dans la phase de l'enquête à l'audience, bon, il y a des avocats qui peuvent intervenir, mais pendant les interrogatoires, comme il n'y a pas d'assistance d'avocat, bon, avec la traduction, avec l'interprétariat assez problématique, la qualité de PV n'est pas plausible à cette étape-là. Et aussi, il n'y a pas d'accès au dossier pour les avocats pendant la phase de l'enquête. Là aussi, ça pose un grand problème. On ne peut pas lire les PV, on ne peut pas avoir accès. Donc, on ne sait pas comment l'enquête est menée derrière. Aussi, l'utilisation de l'aveu, c'est important, même si les avocats peuvent émettre des avis sur l'utilisation des PV pendant la phase de l'audience. Mais ça reste toujours le problème parce que sous certaines conditions, les juges peuvent accepter les PV qui n'ont pas été approuvés par l'avocat. Donc c'est vrai qu'il faut être bien vigilant pour avouer certaines choses devant le procureur. Alors, comment on fait en pratique? Voilà, je parle un peu du côté de la défense parce que c'est un peu mon métier. Et donc, pendant l'enquête, comme il n'y a pas l'assistant avocat, bon, on essaie d'abord de négocier avec le ministère public. Là aussi, c'est une particularité au Japon. Ça n'a pas été le cas, je pense, pour M. Ghosn, parce que l'affaire est trop compliquée et l'enjeu est trop important. Mais dans la plupart des cas, on essaie de négocier donc, avec le parquet. Donc là, quand je suis contactée par un Français détenu dans un commissariat de police, bien à la maison de détention de Tokyo, j'appelle le procureur tout de suite. Et normalement, comme je vous ai dit que nous avons la formation commune, on se connaît plus ou moins bien, et donc normalement, on discute ensemble, on essaie de chercher ensemble la solution. Donc le parquet n'est pas là pour poursuivre à tout prix. Donc l'autre jour, j'avais une affaire, une jeune Française, un peu kleptomane. Donc là, ce qu'on a fait, c'était d'aller chercher des médecins, etc. Et c'était même le procureur qui m'a demandé de chercher quelqu'un, un médecin au moins anglophone, pour que cette personne puisse communiquer. Et finalement, donc, elle a pris un médecin et donc le procureur a décidé de classer sans suite l'affaire. Donc il y a toujours une collaboration assez importante chez nous avec le procureur. J'aimerais bien préciser parce que c'est un peu particulier dans notre système. Et aussi pendant les interrogatoires, nous n'avons pas l'assistance d'avocats, mais les avocats peuvent rencontrer à tout moment, 24 heures sur 24, les clients. Il n'y a pas de problème. Parfois, on dit dans des journaux que les gens ne peuvent pas voir les avocats. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que pendant, quand il y a des interrogatoires, on ne peut pas rester 2 heures, 3 heures avec son client, mais normalement, surtout quand les personnes sont détenues dans des commissariats de police, même si je viens parfois, il m'est arrivé d'aller à la police 23 heures, il n'y a aucun problème, je discute jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, aucun problème. Donc là, on a assez de temps pour conseiller, pour bien répondre aux interrogatoires du procureur. Et après, voilà, on demande, après les interrogatoires, on va à la maison de détention pour que voilà, les clients puissent faire le compte rendu. Et après, on donne encore plus de conseils pour la suite. Donc, il y a ça, il y a certaines formes de défense. Et aussi, j'ai écrit « Dire la vérité ». Ça aussi, parfois, c'est un peu difficile à comprendre. Mais voilà, au Japon, on aime bien, d'habitude... comment je peux expliquer ça? En fait, parfois quand j'ai des clients non japonais, les gens demandent à leur maître quelle est votre stratégie. Et au Japon, désolé, il n'y a pas vraiment la stratégie. Parlez, dites la vérité ce qui s'est passé. Parce que en fait, comme il n'y a pas la communication de pièces, on ne sait pas par où attaquer en fait dans la démonstration des faits du procureur. Donc c'est au prévenu de dire, en fait, de faire l'histoire, de faire la version des faits, et bon, si à la commission des faits, donc là, enfin, parler de tout. Ce n'est pas en cherchant des lacunes dans la démonstration de procureur qu'on arrive à gagner le procès. Et les juges aiment bien au Japon, quand les prévenus disent, ben, je suis désolé d'avoir commis certains faits, etc. Et parfois même, à la fin de la procédure, au verdict, après, il y a parfois les gens qui prennent la parole, dire bah, merci beaucoup monsieur le juge et merci beaucoup surtout messieurs les policiers, c'est grâce à eux que je peux refaire la vie. Donc il y a un moment de réconciliation. Donc le rapport est peut-être un peu différent de ce que nous voyons en France. Et comme ça, il y a cette étape assez intéressante dans notre système, il y a le taux de classement sans suite de 60%, c'est assez important. Là, on dit que, voilà, en France, au Japon, il y a 99% de condamnation. C'est vrai quand il y a la poursuite pénale lancée par le parquet, mais si on compte toutes les affaires portées devant la police et devant le procureur, donc il y a 60% de classement sans suite, parce qu'il y a la négociation derrière avec l'avocat, etc. Voilà. Et puis à l'audience, La stratégie adoptée, c'est bien examiner les pièces, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les avocats ont le droit de contester la présentation de certains nombres de preuves. Donc, c'est aux avocats de bien trier. Donc, on lit bien les PV. C'est pas très honnête de dire « je refuse les PV en entier ». Donc, on dit toujours « je refuse la présentation de ligne, je sais pas, une ligne, enfin, de la première ligne jusqu'à la 20e ligne du PV ». Par exemple, on précise bien les parties qui posent des problèmes. Et aussi la cross-examination. Donc là, on s'entraîne pour bien savoir poser des questions aux témoins et aussi aux prévenus. Voilà. Donc, le taux de condamnation définitive, c'est moins de 30%. Donc, ce n'est pas aussi élevé que ce qui est dit couramment dans des médias. Voilà. Et normalement, nous avons 320 personnes, enfin c'était en 2016, hein. Il y a eu 320 personnes qui ont eu le jugement au Japon. Mais en tout cas, ça a l'air assez important, mais en France, vous avez 3 fois plus, et au Japon, nous sommes 2 fois plus nombreux que vous, donc il n'y a pas beaucoup de procédures. au Japon. Voilà. Donc, je passe un peu à l'étape suivante, après la présentation de notre système, une justice en otage. Voilà. Maintenant, je m'éloigne un peu de détails de notre système pénal. Donc, jusque-là, j'essaie de vous expliquer que les critiques étaient légitimes, mais il y avait certains malentendus. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, et c'est parfois des problèmes que je rencontre dans mon métier d'avocat au Japon. Et parfois, la compréhension n'est pas facile entre les deux pays. Et c'est un peu pour vous expliquer que je suis là ce soir. Et donc, un peu, pour faire un peu d'histoire. Bon, déjà, on est assez loin, c'est 10 000 km d'ici jusqu'à Tokyo. C'est 2 heures de vol, 2 heures de vol, comme ça. Bon, avant, c'était encore plus loin, c'était tout ça à prendre en bateau. Et donc là, on a commencé assez loin. Il n'y avait pas eu beaucoup d'échanges entre la France et le Japon pendant longtemps, parce que c'était le Japon qui fermait le pays à l'étranger. Donc on était sous le système féodal, mais pour ne protéger, pour éviter toute forme de colonisation, et aussi l'évangélisation, parce qu'on se méfiait beaucoup de christianisme à l'époque, on pensait que c'était comme ça qu'on serait colonisé. Donc là, on a fermé le pays. Mais en tout cas, ceci étant dit, voilà. Tout ça, c'est les tableaux. Ça aussi, c'est les tableaux que je montre à mes étudiants au Japon pour montrer qu'on est parti de loin, mais maintenant, on est plus ou moins proche. Et que nous avions quelques présentations un peu exotiques, chacun de son côté. Voilà, par exemple, les prêtres européens étaient présentés comme ça au XVIIe siècle au Japon. Bon, un peu style chinois, c'est des Européens, mais bon, nous avons présenté comme ça, donc c'est pas très facile la compréhension. Et puis, bon, c'était pareil, c'est les Japonais qui ont été présentés par les Européens. J'ai tiré ces photos du site de la BNF, de la Bibliothèque nationale. Donc, les Japonais étaient présentés plus ou moins comme ça. Aussi, quelques images. J'ai dit que le Japon a essayé de refuser le christianisme, mais pendant un certain temps, ça a bien marché. On était bien, il y avait une certaine tolérance. Et il y avait des fils de samouraïs, enfin, de nos soldats, enfin, des seigneurs, qui se sont convertis au christianisme, et ils ont été envoyés, enfin, ils ont été invités par le pape, par exemple, au XVIe siècle. Donc, ils ont fait tout le voyage, le long voyage, donc là, ils ont été présentés de cette manière-là au pape. Donc là, c'était un peu la première rencontre entre le Japon et le monde occidental. Mais ça n'a pas avancé tellement, parce que juste après, nous avons fermé le pays au monde. Et donc, ça commence un peu de malentendu. Et puis, par exemple, là, ce monsieur, c'était Napoléon présenté par les Japonais à l'époque, fin 18e siècle. Donc, c'est pas tout à fait Napoléon que nous voyons dans des tableaux, mais c'était un peu l'idée que les Japonais avaient des Français. Voilà. Et tout ça, bon, c'était des images. Mais comme c'était les deux mondes assez loin, il y avait certains, donc là, le malentendu avait un peu commencé à cette époque-là. Par exemple, je pense que vous avez appris, vous avez lu Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, en entier, mais là-dedans, il y a quelques passages dédiés au Japon et aux Japonais. C'est pas très flatteur pour nous. Par exemple, Montesquieu le dit, de l'esprit des lois, c'est quand il parle de la théorie des climats, mais on parle pas de climat ici. Donc, je me demande si c'était pas un hors-sujet là-dedans, mais en tout cas, Montesquieu disait, les lois tyrannisent le Japon. Le peuple japonais a un caractère si atroce, merci, que ses législateurs et les magistrats n'ont pu avoir aucune confiance en lui. Ils lui ont mis devant les yeux que des juges, des menaces et des châtiments. Bon. Après, c'est pas très flatteur non plus pour nos voisins chinois. Les Chinois ont un désir si excessif de gain qu'aucune nation commerçante ne peut se fier à eux. Cette infidélité reconnue leur conserve le commerce du Japon. Donc, pas très bon non plus comme image. Et dans du contrat social, c'est le livre adoré des Japonais, parce que, par exemple, là, récemment, Il y a, c'est un livre qui vient de paraître, Rosso au Japon. Il y a un certain monsieur Nakae Chomin, on appelle Rosso de l'Orient. C'est le, enfin, c'est pas le premier, mais en fait, c'est lui qui a traduit, fin 19e siècle, du contrat social en japonais. Ça a beaucoup, beaucoup influencé le Japon. Donc, à l'époque, c'était un régime autoritaire, mais c'est grâce à Rosso que le régime s'est un peu libéralisé. Il y avait une certaine forme de libéralisme à l'époque, grâce à la présentation de Rosso au Japon. Mais ce Rosso, dans le contrat social, il parle un peu des Japonais. C'était dans la partie dans laquelle il parle de la souveraineté. Il voulait dire que la souveraineté est indivisible, mais il a pris un exemple japonais. Je ne pense pas que c'était nécessaire, mais en tout cas, c'était comme ça. Mais nos politiques ne peuvent diviser la souveraineté dans son principe, la divise dans son objet. C'est comme s'il composait l'homme de plusieurs corps, dont l'un aurait des yeux, l'autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans du Japon dépècent, dit-on, l'enfant aux yeux des spectateurs, puis jetant tous ses membres l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant vivant, te rassembler. Tels sont à peu près les tours de gobelet de nos politiques. J'ai jamais connu un charlatan japonais qui fait ça, mais en tout cas, c'était la présentation qui avait été faite par les grands penseurs du XVIIIe siècle, des Lumières. Voilà, donc c'était un peu pour illustrer l'incompréhension difficile. Bon, ça remonte assez longtemps parce qu'on n'est pas à ce stade-là, on n'est pas à cette incompréhension, mais ça continue un peu encore, peut-être quand l'avocat de M. Ghosn parlait de la possibilité de juger M. Ghosn en France, parce qu'il a dit que M. Ghosn, en tant que citoyen français, il a d'être jugé en France et que pour avoir un procès équitable, enfin, je suis un peu... Je ne suis pas très précise dans la citation, mais il a un peu évoqué la possibilité de faire le procès en France. Et là, c'est un peu choquant au Japon parce que ça nous a fait penser au traité inégal de 1858. Le problème majeur, c'était la juridiction consulaire. Les Japonais ne pouvaient pas juger. Les Français, les Américains aussi, les Britanniques, par le tribunal japonais. Parce que justement, les Occidentaux ont considéré que les Japonais sont très en retard. Et en fait, c'est un peu la même idée qui revient à l'heure actuelle. Mais aussi, c'est... je pense que ce problème persiste. Je pense qu'il y a là plusieurs raisons. Donc là, j'entre un peu dans la troisième partie de la présentation. Là, je reviens un peu tout à l'heure. Mais d'où vient cette incompréhension? Donc là, bon, Rousseau, Montesquieu, c'est excessif. Hein. Bon, vous n'avez pas cette conception des choses maintenant. Mais bon, les critiques, parfois, la garde à vue, ce n'est pas la garde à vue de 22 jours. Parfois même, j'entends dire que M. Ghosn est dans une cellule éclairée pendant 24 heures. Ce n'est pas vrai non plus. Je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire. C'est vrai, il y a une petite lumière. Ce n'est pas éclairé comme ça, mais c'est vrai qu'il y a les surveillants qui surveillent les détenus. Donc là, ce n'est pas le noir total. Je pense que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a la lumière pendant 24 heures. Je ne connais pas les conditions précises de détention de M. Ghosn, mais il y a quelques malentendus comme ça, et on dit donc, l'avocat de M. Ghosn dit qu'il faut éviter le jugement au Japon. Donc, mais le système, il y a la différence de système. Cette image, je pense que là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça n'a pas été, je pense, expliqué jusque-là en France. Les médias n'ont jamais parlé de cette manière, donc c'était un peu pour ça que j'ai voulu insister un peu sur cette différence. Et c'était pour ça que, bon, il y avait le monde entendu au début, parce que les deux pays sont un peu venus de loin. Il y a la rencontre au XIXe siècle, et... Avec M. Ghosn, l'incompréhension du système pénal, ça revient un peu, ce malentendu, sur le devant de la scène. Et donc là, je réfléchissais d'où venait cette difficulté. Déjà, d'abord, peut-être la conception est un peu différente de la justice au Japon. C'est vrai, il y a 22 jours, parfois on dit, mais comment c'est perçu au Japon? Est-ce qu'il n'y a pas de critique? En effet, il y a une certaine forme de critique, mais pas aussi vive que ce qui a été en France, par exemple, vis-à-vis du système. Bon, déjà, on ne critique pas bien son système parce qu'on a toujours vécu avec. Mais peut-être, il y a aussi, je me suis dit qu'il y a une différence de conception parce qu'au Japon, c'est vrai, c'est pas bon peut-être à vos yeux, mais quand on est arrêté, quand on est détenu, déjà, on considère qu'on a un peu, mis le désordre dans la société. Bon, il y a la présomption d'innocence, bien évidemment, au Japon, mais le fait d'être un peu soupçonné par le parquet, par la police, et surtout, au Japon, il y a une grande confiance à la police, au parquet en général. Donc, quand il y a un soupçon porté par la police et par le parquet, les Japonais pensent que oui, c'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose qui se sont passées derrière. Et c'est pour ça que quand il y a eu 22 jours de la détention provisoire de M. Ghosn, les Japonais n'ont pas été si choqués que ça. Et aussi, on pense que la justice, ça vient un peu de haut, donc on ne fait pas vraiment la contestation. On est un peu jugé, on se met à nu un peu devant le juge et on entend le verdict. Donc là, je pense que ça ne se passe pas comme ça en France, mais il y a un peu ce côté émotionnel et psychologique qui joue assez, qui a un rôle important dans notre système. Et aussi, on dit peut-être qu'il y a le retard de la mentalité des Japonais. À cet égard, hein, pourquoi cette conception de la justice? Et là aussi, 22 jours de détention, c'est long, l'absence d'assistance avocat pendant les interrogatoires, absence de communication de pièces, hein, les problèmes que je vous ai montrés tout à l'heure, et les problèmes critiqués par les Français, par les Européens en particulier, par les Américains, pas trop, mais ça venait surtout de l'Europe. Mais il n'y a pas, donc, il n'y a pas beaucoup de contestation de la part des Japonais. Alors aussi, on se demande pourquoi devient cette absence d'action, de réponse de la part des Japonais. Il y a quelques professeurs au Japon qui ont essayé un peu de décortiquer, d'analyser ce phénomène. Il y a certains professeurs qui essaient d'expliquer ce phénomène par le retard de la mentalité des Japonais en disant qu'on n'est pas assez moderne. Peut-être c'est vrai parce que ça fait que nous avons que 105 ans d'histoire depuis l'ouverture du pays, depuis la modernisation du pays. Donc ça, c'est pas, voilà, on n'a pas une longue histoire, et aussi c'était un peu une greffe du système occidental, parce qu'on s'est un peu pressé pour avoir le système occidental au Japon, et donc il n'y a pas eu beaucoup de débats. On a importé comme ça, c'était donc Monsieur Brosnan qui a tout préparé le terrain. Mais bon, c'était assez nouveau au Japon, donc là, on n'avait pas assez de temps pour bien comprendre le système, le système moderne. Après, il y a eu la guerre, après, il y a eu l'arrivée des Américains, on a complètement changé de système. Donc peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'assimiler tout ce qui est les notions modernes du système pénal et de la protection et des droits de l'homme. Il y a peut-être tout ça le problème. Et c'était pour ça, et donc là, j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas lire tout le texte, mais c'est vrai qu'en fait, une fois, j'ai... Attendez, c'était là, après... Voilà, en fait, j'ai fait une citation de professeur Michael Xifaras. Il est professeur à Sciences Po Paris. En fait, j'ai traduit son article en japonais parce que c'était intéressant. Il parlait du droit global, de la théorie générale, de l'État, du droit global, etc. Et là-dedans, il parle de la difficulté pour les non-occidentaux d'assimiler le système occidental dans leur pays. On dit toujours que la différence de culture ne peut pas justifier, ne peut pas relativiser l'importance de la protection des droits de l'homme, en particulier dans le système pénal. Donc c'est pour ça que je suis là je suis pas là ce soir pour justifier notre système une fois de plus. Mais il a fait une analyse assez importante et intéressante en la matière. Et peut-être aussi, la difficulté pour les Européens de comprendre pourquoi c'est difficile pour les non-occidentaux de comprendre le système dit moderne à l'occidental. Par exemple, je cite professeur Xifaras dit « Les habitants des nations civilisées dont la haute culture a des origines politiques séculaires ont eu la chance de n'avoir pas trop vécu ce genre d'effondrement. Les principaux traumatismes qu'ils ont à subir étant ceux qu'ils se sont infligés eux-mêmes à l'occasion de guerres de religion, de succession et autres révolutions. C'est pourquoi il aurait peut-être difficile d'éprouver la formidable violence symbolique subie par les sociétés désormais contraintes, de s'énoncer et de se comprendre elles-mêmes dans la syntaxe et les termes de la langue jusqu'alors inconnus du juridisme occidental. En théorisant petit à petit cette contrainte, finissant par la trouver légitime parce que c'est moderne, devenant au fur et à mesure de plus en plus incapable de se dire et de se penser comme avant. Par exemple, au Japon, c'était le système féodal avec le shogun, avec des seigneurs féodaux et des samouraïs, comme on dit un peu de notre temps. Et ensuite, donc là, les peuples occidentaux donc, sont obligés pourtant de s'inventer un nouvel avant. Parce que voilà, on essaie de raisonner autrement, parce qu'on ne peut décemment pas ne pas en avoir pas du tout, etc. Et prouvant tour à tour l'humiliation de la soumission et la fierté d'accéder à l'univers symbolique hautement viable des nouveaux maîtres, en espèce monde occidental, sommet d'habiter les formes inédites, l'identité hybride, intensément aimée, intensément haïe. Bon, au Japon, on adore la France, c'est le pays qui fait rêver le plus les Japonais. En même temps, il y a une certaine ferme de complexe et parfois une certaine crainte. Donc là, c'est un peu décrit par Michael Xifaras. Mais toujours, voilà, etc. Et donc, ce processus est celui par lequel les sociétés non occidentales ont été sommées d'adopter les règles, les procédures, institutions, catégories et modes de raisonnement juridique, jusqu'à reconfigurer à des degrés divers leur identité individuelle et collective dans le lexique et les termes de juridisme occidental dans l'une ou l'autre de ces diverses versions. Il en est résulté la juridicisation de leurs univers symboliques et de leur monde vécu. Ces processus commencent à être assez bien étudiés maintenant. Et donc, pour entrer dans le concert des nations civilisées, donc on parle du 19e siècle, hein, il a fallu d'abord tenir certains impératifs, satisfaire quelques principes. Et donc, bon, il n'y a pas de polygamie au Japon, mais c'est vrai qu'il y avait certaines pratiques qu'on devait changer à l'époque, etc. Et donc, Xifaras présente enfin que deux procédés utilisés par les Occidentaux à l'égard des nations civilisées, il y avait deux procédés donc, la colonisation ou l'ouverture. Et c'était l'ouverture, le mode qui a été choisi, enfin, les Japonais ont choisi d'ailleurs, et au moment donc au 19e siècle, et donc c'était le cas de Japon, adopter elle-même le juridisme occidental. C'est ce que nous avons fait au 19e siècle. C'est bien, c'est comme ça qu'on s'est modernisé au Japon, donc il n'y a aucune critique de ma part. Mais de ça, bon, j'ai fait de façon rapide, mais c'était un peu pour montrer que ce n'était pas une évidence absolue pour nous d'avoir le système à l'occidental. Donc c'est un peu pour ça que peut-être pour eux, bon, ça paraît, enfin, les Japonais paraissent un peu en retard par rapport aux normes occidentales. International, mais il y a encore des étapes à franchir chez nous, et c'est ce qu'on essaie à l'heure actuelle. Donc on est très très sensible aux critiques internationales, et donc on essaie de moderniser, peut-être que ça sera une grande chance pour nous, cette affaire Carlos Ghosn, ce n'est pas une chance pour lui, mais en tout cas c'était une ouverture, ça va être un point important pour les Japonais. Voilà, je pense que là, je vais bientôt dépasser le temps que je me suis posé. Et puis donc là, je vais un peu terminer ma présentation en vous montrant quelques chiffres. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, le système est tel que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a des problèmes à moderniser notre système du fait de l'histoire, du fait peut-être de la conception différente de la justice que nous avons au Japon. Mais il y a quelques points différents. Alors, voilà, donc bon, un petit chiffre. Mais aussi, s'il y a un certain immobilisme au Japon, c'est que, là aussi, un peu, je suis fière de mon pays, parce que c'est un pays très sûr. Il n'y a pas beaucoup de criminalité au Japon. Par exemple, ça fait toujours rire, mes amis français, mais par exemple, au Japon, quand on va au McDo, on laisse toujours son portable, son iPhone à la table pour regarder la place. Personne ne la prend. Personne ne le prend. Quand on oublie quelque part le portefeuille, d'habitude, c'est restitué Donc l'argent et les cartes bancaires, etc., tout est dans le portefeuille, il n'y a pas de problème. On sort n'importe quelle heure à Tokyo, même une fille toute seule, on en accompagne n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit, il n'y a pas de problème. Et si vous allez au Japon, vous serez bien étonné de voir les Japonais dormir dans le métro. En fait, on fait que ça, le métro. Je pense que tu as vu, vous avez vu. Alors au Japon, enfin, on dort bien dans le métro, on descend les bagages en haut du siège. Bon. À tel point qu'en fait, c'est une société assez sûre. Donc, on pense que la criminalité, c'est quelque chose de très loin. Donc là, c'est vrai qu'on parle très peu. Et il y a aussi une anecdote. Au Japon, il y a de plus, on a augmenté de façon assez considérable le nombre d'avocats. Qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes avocats, d'habitude, dans un premier temps, on prend beaucoup de dossiers commis d'office. Pour s'entraîner un peu au pénal, mais pour avoir des dossiers personnels à côté. Mais maintenant, il y a de plus en plus de jeunes avocats. Mais au Japon, désolé, c'est en japonais, en fait, ça montre qu'il y a de moins en moins de criminalité au Japon. Donc, il y a de moins en moins de criminels au Japon. Ce qui fait que maintenant, les jeunes avocats n'arrivent pas à avoir de dossiers commis d'office parce que tellement il y a moins de criminalité. Bon, on dit que parce qu'il y a plus de vieux au Japon, parce que c'est un pays qui vieillit, et quand il y a moins de jeunes, il y a moins de crimes, enfin moins d'infractions. Mais il y a plusieurs raisons. Mais en tout cas, ça baisse et ça devient de plus en plus sûr. Donc venez au Japon, c'est très sympathique de se balader. Mais il y a aussi, donc là, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, notre sensibilité assez limitée à l'égard de tout ce qui est le système pénal. Mais ceci étant dit, ça ne justifie pas tout ce qui se passe au Japon. Et donc, il y a une certaine évolution. Donc, une fois de plus, le Japon a été très critiqué parce qu'il y a beaucoup de détentions. Je ne nie pas, ça c'est vrai. Mais bon, on est en retard sur certains points, mais on essaie d'évoluer quand même. Donc là, ce tableau montre d'abord le nombre de détentions. C'est la barre noire. Bon. Il y a un pic en 2003, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu beaucoup de détentions. C'était près de 90 000 personnes. Mais après, ça chute, enfin, ça baisse. Et en 2017, donc, on est voilà, à peu près 50 000 cas, donc, presque la moitié. Il y a de plus en plus de libérations sous caution. Donc maintenant, le nombre de libérations sous caution, c'est les barres jaunes. Et le taux de libération, c'est la courbe verte. Donc ça augmente, on est à peu près 33%. Donc voilà, on peut être libéré, même au Japon. Et puis désolé, c'est en japonais, mais c'était pour montrer qu'au Japon, voilà, quand on lit les journaux, on a l'impression qu'on est tout de suite détenu, on est un peu condamné dès le début. Mais en fait, vous voyez tout à la première ligne, il y a le chiffre 36,1. En fait, c'est le pourcentage de détention provisoire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est détenu. Il n'y a qu'un tiers de cas. Donc, M. Gond a été arrêté parce que l'affaire c'était très important. Mais en règle générale, il n'y a qu'un tiers de cas qui a la détention provisoire. Et aussi quelques évolutions, surtout c'est à Tokyo. Il y a une chambre spéciale qui traite tout ce qui est la question de la détention provisoire et la décision de libération sous caution. C'est des juges spécialisés en la matière. C'est à Tokyo qu'il y a le plus de libération sous caution et plus de rejet de l'autorisation, enfin de la demande d'autorisation de détention provisoire. Donc là, le Japon est en train de changer petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire. Voilà, j'arrive un peu à la fin. Voilà, donc aussi, c'était pour donner l'idée. Donc, il n'y a pas beaucoup de criminalité. La plupart des cas, c'est le vol et la drogue, 36% et 20%. Et accident de voiture causant la mort de victime, ça arrive malheureusement. Mais donc, vous voyez, après le cannabis, etc. Donc, ce n'est pas un pays très violent. Donc, ça rejoint l'explication de tout à l'heure. Hein. Voilà, donc j'arrive un peu à ma conclusion. Enfin, ce n'est pas facile de conclure. Donc, bon, c'était un peu déjà dit dans ma présentation, mais donc je reprends un peu tous les problèmes que nous avons. Et aussi, voilà, j'ai pris un peu de préciser un autre point. J'ai dit qu'il y a le malentendu. Enfin, il y a des problèmes au Japon, mais je pense qu'il y a aussi des malentendus. Par exemple, les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, ça n'a jamais été expliqué nulle part, j'imagine. Et que je pense que... Enfin, en tout cas, j'espère que j'ai pu relativiser certaines images qui ont été présentées en France. Et j'ai dit qu'il y avait un peu le mal à compréhension qui venait aussi de l'époque de Rousseau, de Montesquieu peut-être. Mais peut-être aussi il y avait, je dois dire, qu'il y a la responsabilité, une part importante de la responsabilité des Japonais. Parce que le Japon, c'est vrai, il y a 150 ans, nous avons essayé d'absorber le plus possible le système occidental. C'était vraiment la condition sine qua non pour sortir. Accéder au rang des pays modernes, mais en même temps, c'était dans le sens unique. Donc là, on essaie d'avoir le plus de connaissances possibles du monde occidental, notamment de France et de l'Allemagne. Mais bon, arrivé à ce stade, je pense qu'il est temps pour les Japonais de parler de nous-mêmes un peu. Donc là, c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante de m'avoir offert cette occasion de parler de mon pays, parce que s'il y a la malincompréhension en France et aux médias, c'est peut-être que les Japonais n'ont pas pris la peine d'expliquer ce qui se passe vraiment au Japon. On n'est pas là, une fois de plus, pour justifier notre système, mais on peut un peu expliquer comment ça se passe et que ce n'est pas si horrible que ça notre système, mais peut-être qu'au Japon, il n'y avait pas cette étape importante, enfin on n'a pas fait vraiment le travail de pédagogie peut-être vis-à-vis des pays étrangers. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce stade-là. Donc là, j'ai dit la malcompréhension, j'ai parlé de Rousseau et de Montesquieu, mais bon, on ne peut pas dire en français, mais pourquoi vous ne me comprenez pas si nous, les Japonais, ne faisons pas d'efforts de nous faire comprendre. Donc, voilà, maintenant, j'espère qu'il y aura beaucoup d'occasions de faire, d'avoir des occasions d'échange pour avoir des échanges qui permettent une meilleure compréhension. Mais en tout cas, j'ai voulu un peu souligner ce point avant de terminer ma présentation. Et donc, j'espère que maintenant, on ne sait pas encore comment ça se passait, le procès de M. Ghosn. Il y a un certain spécialiste qui disent que le parquet n'est pas toute la chance pour obtenir la condamnation, parce qu'en effet, par rapport aux faits dont M. Ghosn est reproché, s'il y a la condamnation pénale, il ne va pas y avoir de sursis. Parce qu'en fait, au Japon, le sursis n'est possible que pour 3 ans d'emprisonnement. Donc, si ça dépasse, c'est pas le sursis. Enfin, maintenant, on a le sursis un peu partiel, mais le sursis d'exécution est assez limité. Et donc, s'il est condamné, il va y avoir un emprisonnement ferme dans des établissements pénitentiaires au Japon. Et le transfert en France, ça se pratique pas beaucoup à ce moment-là. Normalement, au moins, dans la plupart des cas, on doit faire 2/3 de peine au Japon avant d'être transféré. Parce qu'une fois, j'ai négocié pour mes clients avec le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice m'a dit « Ah non, non, maître, on fait pas ça parce qu'on sait qu'une fois que les prisonniers français sont renvoyés en France, ils sont tout de suite libérés en France. » Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est comme ça que les Japonais considèrent les choses. Donc, les Japonais préfèrent que les prisonniers étrangers fassent leur peine au Japon. Donc, on ne sait pas. Donc, s'il y a la condamnation, il va y avoir un emprisonnement assez important. Mais certains spécialistes considèrent, certains avocats considèrent que peut-être que le parquet n'a pas toutes les chances d'obtenir la condamnation de M. Ghosn. Donc à suivre, on ne sait pas. Et je pense que là, si la première audience est prévue en automne, mais après, ça va durer assez longtemps. Donc c'est une affaire de longue haleine. Donc là, nous allons regarder. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été un choc pour le Japon, pour l'Europe, pour la France aussi. Mais c'était vraiment un choc. Parce qu'en fait, le jour de la première arrestation, en fait, j'ai été à une grande conférence, en fait, une grande réunion organisée par la Chambre de commerce de France au Japon. En fait, la Chambre de commerce au Japon, c'est la chambre de commerce la plus importante de l'Europe au Japon et la plus ancienne. Et donc, nous fêtions son 60e anniversaire de la Chambre de commerce de France au Japon. Et donc, il y avait tous les dirigeants des boîtes importantes françaises et japonaises. Donc, on était dans une grande salle de conférence à Tokyo. Et le discours d'ouverture était donc, et c'était donné par, à l'époque, le vice-président de Nissan, M. Saikawa. Il était là pour vanter la réussite de l'alliance franco-japonaise. Il a expliqué bien comment ça marche bien entre la France et le Japon, entre Renault et Nissan. Voilà. Et puis, l'après-midi, je rentre dans mon cabinet, j'allume mon ordinateur et je lis le flash info, arrestation de Carlos Ghosn. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? En fait, donc, M. Saikawa savait très bien quand il parler de la réussite franco-japonaise, que quelques heures plus tard, il y a les procureurs qui montent dans l'avion Monsieur Ghosn. Bon, c'était un grand choc. Mais en tout cas, c'était un grand choc pour les Japonais parce que c'est une icône Monsieur Ghosn au Japon. C'est quelqu'un qui a fait très peur au Japon parce qu'il a licencié beaucoup de personnes dans le pays où ce n'est pas la pratique de licencier les personnes allemandes. Quand on a un CDI, on termine. Voilà, enfin, on y reste jusqu'à la retraite, jusqu'à l'âge de retraite. Mais M. Ghosn est arrivé par sa manière. Bon, il a bien rétréci la taille de Nissan, mais c'est comme ça qu'il a réussi à relancer. Donc là, il a sauvé notre industrie au Japon. Et donc, c'est une icône adorée, en même temps, un peu, on craignait un peu de sa personnalité, mais en tout cas c'était quelqu'un charismatique, très important au Japon, donc c'était un choc. Et donc, ça a bien marqué l'esprit des Japonais, il y a aussi la pression internationale très importante. Au départ, je pensais que M. Ghosn ne pouvait pas être libéré si rapidement. Bon, c'était pas si rapide que ça, parce qu'il est resté assez longtemps dans la maison de détention de Kosuge, sous la surveillance totale, mais normalement, jusqu'à la date, peut-être de la date de la première audience, normalement, la libération des étrangers est assez difficile. Mais si c'était différent, c'est qu'il y a eu beaucoup de pression internationale, beaucoup de pression française également, parce que les juges ont compris que il faut bien respecter aussi les normes internationales. Et le code pénal au Japon et le code de procédure pénale au Japon, c'est assez bien fait, je trouve, c'est aux normes internationales. C'est la pratique qui causait le problème, et c'était pour ça qu'il y a l'inversion entre le principe et les exceptions. Et maintenant, les juges, peut-être après, ça sera le tour du procureur, mais les juges ont compris qu'il faut appliquer la loi comme c'est écrit dans le code, et que... Et malheureusement, on n'a pas pu faire ça nous-mêmes. Ça aurait été bien si les Japonais pouvaient se réveiller d'eux-mêmes. Mais en tout cas, sous la pression internationale, je sens bien qu'il y a un certain changement, il y a une certaine évolution. Ça avait déjà commencé avec voilà, les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais je pense, et en tout cas, j'espère que ça va s'accélérer. Bon, il va toujours avoir les infractions, il va toujours avoir la détention provisoire, les jugements et la condamnation, etc. Mais je pense que là, avec cette affaire très importante, je pense et j'espère donc encore une fois de plus que le Japon va changer. Voilà. Merci beaucoup. Désolée, hein, j'ai dit une heure, j'ai dépassé un peu le temps.
Merci infiniment, Maître Kanizuka, de cette présentation très bien faite, très éclairante, très argumentée. Vous n'avez pas cédé, je dirais, la facilité juridique à un enfermement dans la présentation des textes et des normes. Et je crois qu'on a bien vu et qu'on mesure la spécificité d'abord du droit japonais. Et vous avez eu raison de rappeler qu'il y a une importation, c'est ce que vous dites, hein, du droit américain qui a, et finalement du droit occidental qui a bouleversé sans doute votre manière de pratiquer la sanction pénale et la procédure pénale. Vous nous avez montré également les différentes phases du procès. J'en ai repéré 14, je crois, 14 phases d'instruction et qui vont donc jusqu'au verdict. Et puis, vous nous avez aussi permis de comprendre et peut-être d'avoir un regard un peu plus nuancé avec votre éclairage sur la manière de percevoir d'abord votre système et les conditions également dans lesquelles Carlos Ghosn, notamment, a été incarcéré, c'est toujours le cas d'ailleurs, dans le cadre du procès que l'on connaît. Bien. Alors, écoutez, ce que je suggère à partir de maintenant, c'est peut-être un temps de discussion. J'imagine que les remarques qui ont été faites suscitent des interrogations, des questions. Alors, je vous laisse la parole si vous avez l'intention d'intervenir, de faire une remarque ou d'ajouter un point. Et à l'occasion, j'aurai peut-être des questions, bien entendu, l'occasion, pour ce qui me concerne, de vous poser une ou deux questions, ou en tout cas de faire une remarque. C'est à vous. Monsieur Fourmont.
Oui, les systèmes pénaux français et japonais sont bien sûr très différents. Et on sait que lorsque deux systèmes pénaux sont différents, la coopération judiciaire pénale, elle est faible. Vous avez évoqué la situation du transfèrement. Le Japon l'accorderait faiblement vers la France. Mais le transfèrement, c'est toujours un contentieux très peu nombreux. Mais qu'en est-il de l'extradition, et en particulier de la France vers le Japon ? Qu'en est-il de l'extradition rapportée, par exemple, à la jurisprudence du Conseil d'État qui pourrait, par exemple, porter, ça serait un jugement de valeur, sur le procès pénal équitable ou non au Japon. Y a-t-il des difficultés de contentieux au plan de l'extradition ?
Merci beaucoup. Je suis désolée pour le terme quand vous dites extradition, parce que bon, j'utilise tout à l'heure le terme transfèrement, peut-être j'ai mal choisi le terme. Extradition.
Dans le transfèrement, c'est le transfèrement d'un condamné.
C'est ça, d'un condamné. Pour le jugement, donc, en tout cas, malheureusement, je ne connais pas comment ça se passe depuis la France vers le Japon, mais en France, Japon, il n'y a pas cette extradition. Quand il y a des affaires au Japon, c'est les Japonais qui jugent. Donc là, c'était un peu le cas, c'était un peu le point qui a été évoqué par l'avocat de Carlos Ghosn lors de son interview sur le plateau. BMF, je pense, mais au Japon, normalement, on va pas faire ça, on va juger au Japon, et c'est vrai qu'il y a une certaine, aussi, je pense qu'il y a un certain refus, parce qu'on considère que c'est une juridiction consulaire, hein, parce qu'on veut montrer qu'on peut juger au Japon, on laisse pas, même pour des affaires mineures, on garde tout le monde au Japon.
De coopération d'extradition avec d'autres pays bien sûr, pour poursuivre et juger.
Pour poursuivre, juger, pour... je pense qu'il y a un certain nombre, mais en tout cas, il n'y a pas avec la France, je pense. Oui, il y a aussi ça. Mais dans d'autres pays, on ne fait pas trop d'échanges non plus.
Oui. Si j'ai bien compris ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, l'avocat n'a pas accès au dossier pendant toute la phase d'enquête. Et à un moment donné, le procureur doit présenter ses preuves. À ce stade-là, l'avocat n'a donc pas accès au dossier.
L'avocat n'a pas accès au dossier pendant la phase de l'enquête. C'est ça qui est terrible, mais c'est vrai qu'une fois qu'il y a la mise en accusation, en fait, à la fin de l'enquête, le procureur dépose l'acte d'accusation au tribunal. En fait, c'est la fin de l'enquête. Et après la fin de l'enquête, après l'enquête, le procureur est tenu de communiquer les pièces pour que l'avocat puisse préparer la défense.
Ça veut dire que l'avocat va avoir un délai quand même. Lorsque l'enquête est terminée, avant qu'il présente ses preuves, l'avocat a un délai, on lui confie le dossier, il peut préparer sa défense sur cette base-là.
Exactement.
Et cette notion de délai, de quel ordre on a... Quel est le...
Ça dépend, en fait, dans des cas simples. Normalement, nous avons à peu près un mois et demi entre la date du dépôt de l'acte d'accusation et la date de la première audience. Et donc, c'est entre-temps qu'il y a la communication des pièces. Et normalement, le parquet est assez rapide pour présenter des pièces. Je pense que 2-3 jours après le dépôt de l'acte d'accusation, les avocats peuvent consulter les pièces. Mais le problème, c'est pas la totalité des pièces. C'est déjà les pièces triées par le procureur. Donc là, s'il y a des pièces, eh bien des PV qui sont en faveur de prévenus, c'est assez difficile aux avocats d'y accéder parce que le parquet et ne communique pas, et parfois on doit faire des demandes spéciales. Donc pour pallier à ce genre de problème, maintenant, j'ai un peu sauté cette explication tout à l'heure dans mon explication, et nous avons institué des systèmes, des audiences préparatoires. Là, le juge intervient aussi, on n'entre pas dans le détail des faits, mais on parle des pièces. Donc maintenant, le procureur est obligé de faire la liste assez complète des pièces qu'il communique au juge, et à l'avocat même avant la date de l'audience, pour que l'avocat puisse poser des questions concrètes au procureur, si peut-être que dans la liste, il y a des pièces qui devraient exister, l'avocat peut poser la question au procureur, et si jamais le procureur ne donne pas cette pièce, c'est alors au juge de trancher la question et d'imposer au parquet de présenter les pièces demandées par l'avocat.
Alors, si je comprends bien vos explications, madame, c'est que concrètement, c'est à charge, puisque le procureur va montrer les pièces qui l'intéressent. S'il a découvert des positions qui vont dans le sens de la personne qui est mise en cause, ça m'étonnerait qu'il les voile spontanément.
Exactement.
Donc, comment peut faire l'avocat à ce moment-là?
Exactement, c'est un grave problème. Donc, on fait parfois, on fait un peu au pif comme ça, comme on dit. On dit oui, ça doit exister certain nombre de pièces parce que certains témoins étaient interrogés par le procureur. Ou bien, normalement, en fait, ce qui se passe est assez rudimentaire, mais comme on peut pas assister aux interrogatoires, en fait, on passe un petit carnet au client. Et on demande à chaque fois qu'il est interrogé par le procureur de prendre la note des questions posées, la date de PV, la date interrogatoire. Donc, à la fin de l'enquête, l'avocat dispose, grâce à ce petit carnet de prévenus, les dates et le nombre de PV. Donc là, on fait la comparaison, c'est assez rudimentaire, je crois bien, c'est pas très professionnel comme procédé, mais on fait la comparaison, on dit, voilà, dans la liste des PV présentés par le procureur, il y a un certain nombre de pieds, enfin de PV qui devraient exister d'après le carnet de mon client, et donc...
Parce que pendant l'enquête, ça veut dire que les policiers, parce que c'est les policiers qui vont l'interroger à ce moment-là.
Les policiers et les procureurs. Pour M. Gonde, c'est les procureurs, mais dans d'autres cas, normalement, d'abord, c'est les policiers, après, c'est les procureurs.
D'accord. Mais le procureur ou les policiers vont lui montrer des pièces à ce moment-là ou ils vont simplement procéder par affirmation?
Ça dépend. En fait, les pièces physiques, objectives, non. Ça dépend. Si les procureurs pensent que c'est important, ils peuvent les montrer, mais d'habitude, non. Donc, c'est vrai que là, pour ça, c'est difficile. Mais en tout cas, les PV, quand les PV sont établis, c'est lu par le procureur et c'est signé par le prévenu à la fin. Sinon, ça n'a pas de valeur juridique. Donc, au moins, on sait qu'il y a des PV signés, officialisés par la suite.
Alors, permettez-moi d'insister, mais c'est un point qui me paraît important. Mais si je comprends bien, le client, lui, il n'aura connaissance que de ce qu'on va lui dire. Donc, s'il y a eu des auditions d'autres témoins ou d'autres personnes, il ne peut pas avoir cette notion-là.
Exactement.
Or, il peut y avoir quelque chose de fondamental qui vient démolir complètement la thèse du procureur.
Donc, exactement.
À quel moment il y aura accès à ça?
C'est ça le problème, et on n'a jamais accès à la totalité de pièces. Maintenant, le procureur commence à communiquer de plus en plus, ça s'améliore, mais par exemple, comme vous le savez, nous avons encore la peine de mort au Japon. Il y a quelques cas de révision des anciens jugements, d'anciens verdicts. Et c'est vrai qu'il y a encore des personnes qui sont dans le couloir de mort depuis 40 ans, par exemple. Donc, on demande la révision des cas. Et à l'époque, c'était encore pire. Le procureur cachait beaucoup, beaucoup de pièces. Et maintenant que le juge prend l'importance de la communication des pièces, il y a eu récemment aussi le cas où le juge a ordonné au procureur, au parquet, de communiquer la totalité des pièces. Et là, il y avait une centaine de pièces qui ont été cachées par le procureur et qui ont servi à libérer le condamné à mort, par exemple. Mais à part ça, mais maintenant, il n'y a pas la communication totale des pièces de procédure.
Et pour conclure, vous qui pratiquez les deux systèmes, notre système français donc, sur Paris et le système japonais sur Tokyo, vous pensez sincèrement que le système japonais est un système équitable?
Ça, c'est difficile. Enfin... Non, je suis assez critique à l'égard de mon système. C'est pas parce que, enfin, il y a de bons points, comme je vous ai expliqué. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand c'est quand des choses sérieuses, c'est en fait c'est là qu'il y a le problème. Je dois dire que ce n'est pas un système équitable parce qu'en fait la défense n'a pas assez d'outils pour. On dit que c'est un système accusatoire, on dit qu'on est à pied d'égalité. Ce n'est pas le juge d'instruction qui fait tout. On dit, au début, en tout cas à la fin de la guerre, on dit que maintenant on a un système équitable parce qu'il y a, il y a les deux parties qui s'opposent, le parquet et la défense. Mais ce qui fait qu'en fait, c'est le parquet et la police qui ont toutes les preuves et les avocats ont venu essayer de chercher. Parce qu'en fait, j'ajoute, quand il y a l'arrestation, c'est encore mieux. Je vous explique. Parce que quand il y a l'arrestation, au moins, il y a un mandat d'arrêt. On sait... Pour quel fait la personne est arrêtée? Le pire, c'est quand il n'y a pas l'arrestation. L'autre jour, j'avais un client européen qui a commis une certaine... C'était en fait une infraction sexuelle. Mais il nie les faits. J'ai rien fait. Mais il était poursuivi. Donc il y avait l'enquête menée derrière. Donc là, j'appelle la police. Mais je voulais savoir la qualification. Est-ce que c'était le viol ou bien juste une... Est-ce que si c'était un viol, une agression sexuelle? Et la police dit, ah non, je ne peux pas vous le dire, c'est le secret d'enquête. Et donc, c'était difficile. Donc, mon client était bien frustré, ce que je comprends. Il disait, bah, maître, c'est quoi votre stratégie? J'ai dit, mais je suis désolé, mais c'est difficile parce qu'on ne sait même pas la qualification des faits qui me sont reprochés. Donc, bon, il était en liberté, donc c'est mieux que d'être dans une cellule de commissariat de police. Mais pour la défense, c'est encore pire parce qu'on ne sait pas pour quel fait il y a l'enquête derrière.
D'accord, mais comme vous disiez tout à l'heure que vous aviez la même formation et donc un respect mutuel les uns envers les autres, avocats et magistrats, comment se passent ces plaidoiries? Ce sont des plaidoiries de connivence, comme on dit régulièrement, ou il y a aussi des avocats japonais qui sont dans la rupture et qui s'opposent véritablement?
Vous voulez dire dans l'audience?
Oui,
là aussi on joue bien, il n'y a pas la connivence. Hein. Je dis que quand il y a le respect, il y a le respect pendant la phase de l'enquête, par exemple, quand il y a le but poursuivi ensemble. Parce que parfois c'est vrai que pendant la phase de l'enquête, parce que c'est vrai que le cas de Carlos Ghosn, je pense qu'il n'y en a pas comme ça tous les ans. D'habitude, c'est des cas mineurs. Dans des cas de moindre importance, ce que cherche le parquet, c'est on cherche ensemble comment le prévenu, en tout cas des personnes en question peuvent refaire la vie. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on travaille ensemble. Il y a je pense qu'il y a une bonne collaboration. Mais dans des cas encore plus graves, oui, dans ce cas-là, les avocats japonais sont assez agressifs. Hein. On s'oppose. Et c'est vrai que l'avocat de Monsieur Ghosn, Monsieur désolé, le nom saute. Voilà, j'ai un trou de mémoire, mais on dit que voilà, c'est un. Il a pris le meilleur pénaliste du Japon et le surnom c'est le rasoir. Donc, mais la plaidoirie est assez importante. Mais c'est vrai que les Japonais c'est pas un peu, enfin, qui parlent beaucoup. Donc la plaidoirie c'est pas, il n'y a pas l'effet de manche comme en France, comme on dit. On dit un peu le texte comme ça, mais on fait la démonstration. Donc là, ce n'est pas un effet théâtral au Japon, mais c'est vrai, la plaidoirie est assez pointue.
Et je ne vous cacherai pas, et moi j'en terminerai là-dessus, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut dire, dans le même temps qu'il y a une collaboration entre le procureur, les magistrats et l'avocat pour arriver à trouver la solution, tout en sachant que dans le même temps, le procureur peut vous cacher un certain nombre d'éléments jusqu'au bout sans aucun problème.
En fait, ça dépend des cas, en fait, ça dépend vraiment de l'affaire. Ça dépend vraiment de l'affaire. On le sent quand on appelle le procureur. Bon, c'est vrai que c'est pas très scientifique ce que je veux dire, mais ça dépend des affaires. Par exemple, dans la plupart des cas, on dit que dans 90% des cas, les personnes enquêtées avouent, enfin, en tout cas, parlent d'eux-mêmes ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est seulement dans les 10% de cas où les prévenus ni les faits que ça devient problématique. Mais dans la plupart des cas, les Japonais parlent tout de suite après ce qui s'est passé et que c'est un peu ça qui raccourcit la procédure en effet. Donc là, on a un peu cette mentalité-là. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est le procureur n'a pas besoin de cacher les preuves. Donc là, dans ce cas-là, bon, on travaille un peu en commun ensemble, mais c'est vrai que dans les 10% de cas restants, ça devient assez dur.
si on est dans les 10% et si on plaide son innocence, qu'on dit qu'on n'y est pour rien et qu'on vous oppose que vous êtes coupable et qu'on ne peut pas avoir accès aux éléments, c'est quand même un peu compliqué.
Ah ben, tout à fait, absolument.
Merci en tout cas, madame.
Merci beaucoup.
Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité pour un avocat de solliciter une expertise, par exemple?
Oui, ça c'est pratique. Ça se pratique, une expertise, peut-être moins qu'en France, mais ça se fait en pénal, en civil, en pénal, oui.
Et à qui il doit faire la demande? Au juge, au procureur ou au tribunal?
En fait, il y a plusieurs cas, il y a des experts choisis par le tribunal, hein, mais on peut demander aussi, on peut chercher un expert, après on demande autorisation au tribunal. D'accord. Donc ça peut être le cas pour le procureur, pour l'avocat, pour le procureur, c'est la même chose.
Oui, mais si la demande est adressée au procureur, en cas de refus, y a-t-il un recours?
Il n'y a pas vraiment le recours, c'est difficile, mais ce qui se passe d'habitude, les juges ne refusent pas d'habitude parce qu'il y a l'importance, hein, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à répondre, hein, parce qu'en fait, par exemple, quand on a d'homicide, par exemple, quand on doit savoir comment la personne a été tuée, par exemple, il y a parfois des experts choisis par le procureur qui viennent déposer et des experts choisis par la défense qui viennent déposer. Et après, en fait, c'est aussi important pour le juge. Donc, le juge compare les deux expertises pour arriver à la conclusion, à la décision.
Comme vous avez pratiqué les deux systèmes, vous savez qu'en France, par exemple, si le juge d'instruction vous refuse un acte, il y a possibilité de faire un recours devant la chambre d'instruction. Mmh. Je voulais savoir si c'est le même système existe.
Non, déjà, non. Nous n'avons pas de juge d'instruction, donc il n'y a pas ça.
Ça, j'ai bien compris. Mmh. Mais si la demande elle est faite devant le procureur, si elle n'aboutit pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question, en fait. Est-ce qu'on
D'accord.
Peut...
Oui. D'accord. Bah, en fait, normalement, il n'y a pas vraiment de contestation dans la procédure. Même après, en cas d'appel, on peut mettre ça dans le motif d'appel. On peut redemander l'expertise au juge d'appel. C'est ce qui se fait. Mais c'est vrai que d'habitude, il n'y a pas beaucoup de refus d'expertise. Donc, la question ne se pose pas vraiment. Mais c'est vrai que ce n'est pas scientifique non plus ce que je veux répondre.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai une question qui relève peut-être de la légende, mais en ce moment, on entend beaucoup qu'au Japon, il y a de plus en plus de personnes âgées qui commettent des infractions pour se faire incarcérer parce qu'ils ont des problèmes à se loger. Est-ce que c'est vrai?
Malheureusement, ça existe. Je ne sais pas tout le monde agit de cette manière-là, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui existe. Hein. Peut-être que j'ai un peu l'impression que c'est un peu exagéré quand on présentait à l'étranger, mais malheureusement ça existe. Et que de toute façon, c'est une population qui vieillit, c'est un pays qui vieillit de plus en plus. Et aussi, c'est pour ça que même si c'est pas quand il y a plus de personnes âgées, mais enfin, c'est la question de proportionnalité, enfin, de proportion quand il y a plus de personnes âgées. Bon, bien évidemment, il y a plus de gens qui sont, qui commettent de petites infractions, des petits vols, etc. qui se retrouvent dans des prisons. Et c'est vrai que maintenant, on dit que les maisons, enfin, la prison devient la maison de retraite des personnes âgées. Et donc, le personnel de prison sont un peu, devient un peu, doivent jouer le rôle des soignants, etc. Ouais. Mais il y a ce phénomène. Il y a aussi le problème de prise en charge des personnes âgées. Il y a la paupérisation. Et en effet, ça existe. Et aussi, c'est une société assez difficile de refaire la vie. Tout à l'heure, j'ai dit que l'avocat collabore beaucoup avec le procureur pour trouver une solution pour des personnes qui ont causé quelques problèmes. Parce qu'en fait, refaire la vie au Japon, c'est assez difficile quand on est condamné. Retrouver du travail, retrouver un peu le lien familial, c'est quelque chose de très difficile. C'est un peu pour ça que, avant même d'engager le procès pénal avec le procureur, les avocats réfléchissent comment on fait pour ces personnes-là. Et donc, mais malheureusement, quand il y a des personnes condamnées qui ont fait la prison, après c'est difficile de retrouver la vie normale. Et c'est un peu pour ça qu'il y a des personnes âgées qui enchaînent comme ça. Parce que une fois qu'ils sont libérés, ils n'ont plus de personnes, enfin, ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus de maison. ils ne savent pas quoi faire. Donc à la sortie, voilà, par exemple, j'ai eu un cas d'un monsieur. Il était pas si vieux que ça, mais il avait 70 ans, 71 ans. Il venait de sortir. En effet, il ne savait pas quoi faire. Voilà, il était libéré comme ça un jour d'été. Il faisait chaud. Il avait 200 yens, c'est un peu moins de 2 euros dans sa poche. Il ne savait pas quoi faire. Il a été dans une supérette. Il a pris une petite bouteille d'eau. Il avait soif, mais il avait de quoi payer. Mais comme il ne savait pas quoi faire, il a pris pour un peu retourner à la prison. Donc là, j'ai aussi le cas. Mais comme l'affaire n'était pas très grave, il est resté 23 heures en prison, enfin un peu après, parce qu'il y a eu le procès. Pendant le procès, comme il n'avait pas de domicile fixe, il est resté à la maison de détention. Et bon, il a eu le sursis, donc il a été libéré. Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu après. J'espère qu'il n'est pas retourné en prison par la suite. Hein. Mais ça arrive, oui.
Y a-t-il d'autres remarques? Alors, je voudrais peut-être me permettre d'en faire une. Je crois que l'affaire Ghosn a suscité beaucoup de réactions et un traitement médiatique assez singulier quand même au moment où les faits se sont produits. Mais je trouve qu'en France, on pratique un petit peu les indignations sélectives. L'échange que l'on a eu il y a quelques instants sur la comparaison des systèmes pénaux japonais et français montre qu'il y a peut-être, du point de vue français ou du point de vue européen, matière, alors s'indigner, le terme est peut-être excessif, mais à s'étonner de voir que, effectivement, le système pénal japonais ne correspond pas, en tout cas pour le caractère équitable du procès, à nos standards européens. Bon, cette question-là, je crois, n'a pas été tellement mise en avant dans les médias, sauf peut-être dans la presse juridique spécialisée, mais ça, c'est pas l'affaire de tout le monde, mais dans les grands médias, on n'a pas tellement parlé, au fond, des questions de fond et de ces différences de fond qu'il y a entre nos deux droits. En revanche, et c'est là où il y a une sorte de pratique de des indignations sélectives, en revanche, on a beaucoup insisté sur les conditions de détention de Carlos Ghosn. Et on a souligné dans la presse, télévision, tout ce que l'on a pu voir, les conditions pratiquement indignes de détention de ce monsieur dans ces 6 ou 7 mètres carrés de prison, avec soi-disant l'éclairage 24 heures sur 24 sur un futon, bon, même si après on a appris qu'il est droit à un lit, bon, parfait. Et c'est là où il y a eu une espèce de crispation. Et puis, bah, comme toujours, nous, Français, et puis finalement Européens, avons tapé à trois raccourcis et sur la tête des Japonais avec beaucoup, beaucoup de prétentions et comme très souvent comme des donneurs de leçons. Alors, j'ai en tête une anecdote et puis je ne résiste pas à vous citer un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui va permettre peut-être de relativiser un petit peu tout ça sur cette affaire de conditions de détention, parce que je parle bien de cela. Alors l'anecdote, elle est simple. Carlos Ghosn est emprisonné le 19 novembre, c'est ce que tu disais dans ton propos tout à l'heure, et il se trouve que 10 jours plus tard, le 29 novembre 2018, avec Madame Le Doyen, mon collègue Aubin et un autre collègue de Poitiers et moi-même, nous partons pour une mission d'une semaine à Tokyo. Bon. Alors, vol de nuit, on arrive à l'aéroport d'Haneda, mal dormi, très énervé, hein, bon, évidemment, et puis en même temps très excité par la perspective de cette mission. Bon, quand même 450 Français dans l'avion, je précise, il me semble. On ressort de l'avion, la casquette, les lunettes de soleil, enfin bon, et un petit peu épuisé tout de même. Et là, se dirige vers nous, c'est ça l'anecdote, la télévision japonaise, alors nous en particulier, nous quatre, bon, pourquoi, sur le flot de Français qui sortaient de l'avion, avec un traducteur et puis une caméra, Fuji TV, hein, chaîne privée, et avec une personne qui tient une petite photo où on voit une chambre avec un lavabo et un toilette. Alors, je dis, tiens, c'est amusant, nous sommes des touristes, ils nous proposent peut-être de l'hôtellerie. Alors, et notre réaction sur les capacités touristiques pour les Français. Alors, je parle là-dessus, l'interprète vient vers moi, et en me montrant la photo, ben, je dis, oui, magnifique, très bien, c'est pas très grand, mais bon, mais ça me paraît quand même convenable, et elle me dit, voilà les conditions d'incarcération de Carlos Ghosn. Ah, et je, bon, je suis un peu surpris parce qu'effectivement, je me rends compte que c'est sa prison. Bon. Et puis, alors, le hasard veut que nous soyons profs de droit. Les journalistes étaient heureux de tomber sur des Français et juristes. Bon, que pensez-vous des conditions d'incarcération de Carlos Ghosn? Alors, bon, il a fallu improviser un petit peu là-dessus. Bon. C'est anecdotique, mais je n'ai pas été complètement scandalisé, si vous voulez, et frappé, même s'il y avait un peu de décalage horaire et de fatigue, vous l'avez compris, par la photo en question. Bon, c'est l'anecdote. Là où ça devient peut-être un peu moins amusant, si tant est que ce le soit, c'est une décision, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 octobre 2016, une affaire Mursic, une affaire croate. Alors, dans cette décision, qui est un arrêt important de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu en grande chambre, à 17 juges, c'est un arrêt qui fait à peu près 120 pages, et vous avez à peu près 50 pages d'opinions dissidentes et contraires, à l'issue d'une motivation que je trouve assez surabondante. Alors, c'est quoi l'affaire? C'est un ressortissant croate qui est incarcéré pendant 2 ans dans une prison pour un vol. Peine de prison. Alors, il intente une action devant la Cour européenne des droits de l'homme au motif que ses conditions d'incarcération violent l'article 3 de la CEDH qui interdit les peines et traitements inhumains et dégradants. Or, dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme va statuer sur son cas et en statuant sur son cas, va nous définir le standard des conditions d'incarcération acceptables au regard de la Convention européenne des droits de l'homme en Europe. Je lis ce que dit la Cour, par 10 voix contre 7, qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 3, donc il n'y a pas eu de violation de la Convention européenne des droits de l'homme, pour lesquelles le requérant a disposé, pendant plusieurs périodes, de moins de 3 mètres carrés d'espace personnel. D'accord ? En fait, c'était 2 mètres 40, sans fenêtre. Et puis, la Cour dit, pour droit, à 13 voix contre 4, qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 3 de la même convention pour d'autres périodes pendant lesquelles le requérant a disposé d'un espace personnel d'une surface comprise entre 3 et 4 mètres carrés. Bon, ça veut dire que, si on comprend bien cette décision Mursic de 2016, qu'il est conventionnellement admis et conforme à la Convention européenne des droits de l'homme pour les 47 pays du Conseil de l'Europe et de la CEDH, que 3 mètres carrés sont des conditions acceptables, tolérables, non indignes d'incarcération en Europe. Donc c'est amusant, enfin, ou intéressant, plus amusant, faisons de parler, intéressant de mettre en perspective cela, parce que, et c'est là où je parlais d'indignation sélective, évidemment que les conditions de détention de Carlos Ghosn sont sans doute, en tout cas très surprenantes, parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre en prison des grands dirigeants d'entreprise. C'est peut-être ça, au fond, aussi le fond du problème, par ailleurs. Bon. Mais on n'a pas non plus pris le soin et le temps, en faisant critique, reproche au droit japonais, ou aux japonais tout court, de faire un tout petit détour parce que nous, Européens, on est capable de produire. Alors, à tel point que cette décision Mursic de la Cour européenne des droits de l'homme va poser problème, c'est qu'il y a une affaire pendante cette fois-ci, mais devant la Cour de justice de l'Union européenne, à mon avis qui va être assez intéressante, au sujet de, bon, de la mise en œuvre et d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, je passe là-dessus, mais au sujet d'un ressortissant roumain qui doit purger 4 ans de prison chez lui en Roumanie, mais qui est actuellement en Allemagne. Bon. Et les autorités allemandes refusent la remise au titre du mandat d'arrêt européen délivré par les autorités roumaines, refusent de remettre le ressortissant roumain parce que ce qui attend précisément cette personne qui doit purger ses 4 ans de prison, c'est 4 mètres carrés. Alors 4 mètres carrés, là, l'Allemagne, ça se passe en Allemagne, a dit non, là, c'est pas possible. Alors, les Roumains disent, mais attendez, l'arrêt Mursic, c'est 3 mètres, il faut quand même pas se plaindre. Alors, sauf que la Cour de justice, et c'est un des arguments, c'est une question préjudicielle qui est portée devant la Cour, va se référer, alors non pas sur la Convention européenne, mais sur la Charte des droits fondamentaux, son article 4, qui pose la même règle, des peines et traitements dégradants et inhumains. Alors, on en est qu'au stade du rapport préalable, et il semblerait que la Cour de justice considère que le standard de 3 mètres carrés défini par la Cour européenne des droits de l'homme soit insupportable dans le cadre de l'Union européenne, et qu'on établisse un standard, tenez-vous bien, de 6 mètres carrés. Tiens, c'est la surface de Carlos Ghosn. Donc, vous voyez, la Cour de justice de l'Union européenne pourrait faire aussi bien que les Japonais. Bon, alors, à mon avis, la décision de la Cour qui va tomber, de la Cour de Luxembourg, qui va tomber, à mon avis, cet été, va être intéressante parce qu'elle va venir contredire l'arrêt Mursic de 2016 que j'évoquais à l'instant. Et là, on a, au fond, une sorte d'illustration de, un petit peu de la concurrence des juges européens en matière, si je puis dire, de mieux-disance dans le domaine de la protection des droits fondamentaux. Donc, à mon avis, voilà, c'est ça. C'est ça, les indignations sélectives. C'est cette capacité que l'on a, au fond, à faire procès sans regarder un petit peu de notre côté, et je crois que, et pour terminer juste sur ce point, que les conditions d'incarcération, surtout en France, surpopulation carcérale, je n'ai plus tout à fait les chiffres, mais je crois que c'est 75 000 personnes incarcérées pour 50 000 ou 55 000 places, les conditions matérielles, la vétusté, les conditions sont absolument inimaginables. Donc c'est toujours assez amusant de voir les médias français, certains avocats, en même temps c'est le rôle de l'avocat français d'aller sur ce terrain, eh bien de s'indigner et de trouver évidemment à redire, parce qu'il y a sans doute à redire pour ce qui se passe au Japon, alors que sans doute en France, et y compris dans le cadre du Conseil de l'Europe, il y a aussi, des, à mon avis, pas mal de choses à dire. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Oui, pardon, monsieur, allez-y.
Bonjour. Vous avez parlé d'emprunt au juridisme occidental pour le système pénal japonais. Et je voulais simplement savoir si, dans le cadre de cette procédure, qui n'emprunte pas tellement au système occidentaux actuel, il y avait des réminiscences d'un système plus ancien qui emprunte au droit féodal japonais.
Dans notre code actuel de 48, enfin code de procédure pénale, non, ça a été refondu complètement par les Américains et qu'il n'y a pas eu de retour. Parce que déjà, on n'avait pas vraiment de code, enfin de loi écrite. Enfin, il y avait quelques règles pour faire le procès de système féodal, ça existait. Mais ce n'était pas une codification de façon moderne. Donc déjà, retour à la source, c'était un peu compliqué parce qu'on était plus ou moins parti de zéro. Donc il n'y a pas eu ce retour. Mais en même temps, donc le texte est assez moderne. Non, c'est, je pense que voilà, il y a un certain nombre d'articles qui prévoient le procès équitable, même si en pratique ce n'est pas très équitable, mais il y a un système posé comme ça. Mais donc ce n'est pas vraiment le texte qui pose le problème, mais peut-être c'est la mentalité à mieux intégrer et mieux utiliser, mieux appliquer certaines clauses prévues par le système moderne. Et c'est vrai que bon, voilà, ça a été un peu imposé en 48. Et donc ce n'est pas le système qui revient, mais peut-être la mentalité parce qu'en fait, pour les Japonais, un peu, la justice n'est pas le combat des deux parties. C'est un peu, voilà, quand on a fait du mal, voilà, on entend que le verdict tombe du ciel. Il y a un peu ça. C'est un peu, ce n'est pas du tout puissant qui nous punit, mais il y a une certaine image de pouvoir public qui punit les mauvais, entre guillemets. Donc là, on reste un peu là. Donc c'est pour ça que même s'il n'y a pas vraiment de procès équitable, la plupart des cas, les Japonais considèrent que c'est un peu comme ça, parce que si on a fait de mauvaises choses, alors là, on est là, on attend un peu la punition. Donc je pense que c'est un peu là. Malheureusement, il n'y a pas la question de mentalité. Il y a la question de mentalité, mais cette question n'est pas encore bien creusée au Japon non plus. Il y a quelques chercheurs qui travaillent là-dessus, mais je pense que ça serait intéressant. Et parfois, c'est un peu pour ça qu'il y a parfois le décalage. Par exemple, quand les avocats parlent des problèmes, nous réfléchissons parce qu'on veut qu'il y ait le procès équitable. Donc les avocats, les chercheurs étudient bien le système occidental pour mieux comprendre comment ça fonctionne, le système équitable. Mais par contre, quand nous avons affaire au parquet, au procureur, même si nous avons une grande estime par rapport à eux, eh bien, aux hommes politiques, c'est encore pire d'être qui le garde une mentalité ancienne. Donc, il y a toujours, en tout cas, je sens le décalage. Les avocats et les chercheurs et certains spécialistes parlent en langage occidental vis-à-vis des gens qui n'ont pas ce langage occidental. Et donc là, on a l'impression de parler la même chose, mais parfois, c'est pas le cas. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour aller à l'étape suivante, pour que je pense que ce qui nous est important, c'est de trouver un langage compréhensible en japonais qui n'a pas vraiment la notion occidentale des choses. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire, en effet. Merci pour la question.